C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur, Apulée, vers 125-170, Empire romain, province d'Afrique, dans l'actuelle Algérie. Œuvre Les Métamorphoses, également connue sous le titre de L'âne d'or, écrit en latin. Personnage, Psyché. Il existe un seul personnage dont la biographie n'ait jamais été racontée, c'est Eros. Et c'est sans doute parce que c'est impossible. L'amour n'a pas de biographie parce qu'il n'a pas d'histoire. Il construit et détruit celle des autres. Aucune histoire, aucun mythe particulier à propos d'Eros. Il est là, il surgit, mais à lui, rien n'arrive. C'est lui qui fait arriver aux autres. L'amour est une guêpe. La seule histoire peut-être où il intervienne longuement comme personnage est celle de Psyché dans Les Métamorphoses d'Apulée. Encore n'y a-t-il qu'un personnage de second plan qui est surtout là comme fournisseur ou preneur de plaisir, le personnage principal étant cette Psyché jalousée par Vénus. Quel génie a Apulée dans Les Métamorphoses et comme est brillante l'histoire d'Eros et de Psyché. Dans un certain pays, la fille d'un roi est si belle que les gens ne parlent que d'elle et oublient de suivre le culte de Vénus. La poussière couvre les temples, les coussins sont vierges d'offrandes, plus de processions. Exaspérée, Vénus envoie son fils Cupidon, ou Eros, ou Amour, punir cette Psyché. Un oracle a ordonné aux parents de celle-ci de la conduire à un rocher, où elle sera enlevée par un monstre volant qui la portera aux enfers. Au lieu de quoi, Zéphyr la transporte jusqu'à un palais tout de pierreries et de luxe qui rappelle assez celui du diamant gros comme le Ritz de Scott Fitzgerald. Là, la jeune fille est visitée la nuit par une forme invisible qui lui fait délicieusement l'amour. Cet être, qui repart toujours au matin, lui fait promettre de ne jamais chercher à savoir qui il est ni à connaître son apparence. Un moment délicieux et Psyché 10 ans après qu'il lui a fait l'amour, Eros lui-même n'était pas comparable. Et bien sûr, c'est Eros. L'histoire continue longuement. Pour qu'on ait une idée de la brillante et légère façon d'écrire d'Apulée, je voudrais citer un passage de cette histoire de Psyché où il est question de Vénus voguant sur la mer dans l'excellente traduction de Paul Valette aux belles lettres. Sa suite marine s'empresse. Voici les filles de Néré chantant en chœur, et Portunus tout hérissé d'une barbe bleuâtre, et Salacia les plis de sa robe lourds de poissons, et Palémon le petit aurige conduisant un dauphin. Voici, bondissant çà et là sur la mer, les troupes des tritons. L'un souffle doucement dans sa conque sonore, l'autre oppose un tissu de soie à la flamme d'un soleil importun. Celui-ci tient un miroir sous les yeux de la reine, cela nage par couple attelé à son char. Telle est l'escorte qui accompagne Vénus dans sa course vers l'océan. Qui est Psyché par Vénus jalousée? Pour le savoir, je reçois Xavier Darcos de l'Académie française, chancelier de l'Institut, qui publie ces jours-ci « Ovide, désirer, renaître, survivre » aux éditions Fayard. Xavier Darcos, avant de parler du personnage de Psyché, je voudrais que vous me disiez qui était son inventeur Apulée.
C'est un poète, un écrivain de la seconde moitié du deuxième siècle, et c'est surtout quelqu'un qui a compilé au fond une succession de mythes, de récits, de ce qu'on appelle des fabulae, plutôt des fables, des récits mythologiques, qui les a cousus entre eux pour créer presque le premier roman d'aventure de l'histoire de l'humanité. Mais c'est surtout, et l'exemple de Psyché le montre, une réflexion sur la force de l'amour, parce que c'est toujours l'amour qui est en jeu dans les métamorphoses, dans celle d'Apulée, dans les métamorphoses en général, d'ailleurs dans l'âne d'or. Les personnages sont toujours amenés à changer de forme, à être transformés en âne, par exemple, justement, comme le personnage principal, d'où l'appellation de l'âne d'or, ou à connaître des aventures absolument incroyables, qui sont toutes liées à leur désir, à leur passion amoureuse. Au fond, on est beaucoup plus proche, malgré l'anachronisme absurde, on ne le pardonnera, des mille et une nuits, si vous voulez, que des récits métamorphoses que l'on connaissait avant Apulée, y compris celle d'Ovide d'ailleurs, qui est assez différente de ce point de vue-là. Donc c'est indéniablement, l'âne d'or est un récit intéressant, écrit par quelqu'un qui est très influencé quand même par le platonisme. Et d'ailleurs, quand vous disiez tout à l'heure que on ne connaît pas d'histoire de l'amour ni de Psyché, au fond, ben tout petit peu, mais seulement grâce à Platon, qui évoque dans son Phèdre l'idée que l'amour est psyché, c'est-à-dire souffle, papillon, ou je ne sais quoi, enfin, forme d'âme, enfin, c'est quelque chose d'immatériel, et qui cherche en vain cette immatérialité, cette espèce de souffle, ce zéphyr, je sais pas comment il faut appeler psyché, cette chose qui est flottante comme ça, elle cherche à se réaliser. Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche son Dieu, à savoir Eros. Et lorsqu'elle, cette âme atteindra son Dieu, commencera encore, alors, les véritables histoires de psyché.
Mais psyché ou psyché, très exactement, en grec, ça veut dire quoi?
Est-ce ça veut dire l'âme. C'est l'âme, le souffle. Il y a le psu qui rappelle, qu'on trouve dans l'ensemble des mots qui rappellent le souffle, hein, que les latins traduisaient par spiritus, d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que dans la version d'Apulée, il y a quand même ce fond platonicien. C'est l'idée que, au fond, cette jeune psyché, c'est quelqu'un qui est tout simple, qui ne connaît pas la vérité par elle-même. C'est comme une jeune enfant trop pure, une sorte d'innocence. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Eros ne veut pas qu'elle voie son visage, parce qu'elle elle perdrait de son innocence. Et donc, lorsqu'elle verra d'ailleurs la vérité, lorsqu'elle verra qui est Eros, ce psyché, eh bien, alors les ennuis commenceront. Et donc, il y a à la fois le mythe de l'âme qui cherche à donner du sens à son existence en atteignant l'éros, l'amour. Et puis il y a aussi cette idée au fond que lorsque on voit les choses, lorsqu'on les voit en face, lorsque le voile se lève, lorsque le tabou est violé, eh bien les ennuis commencent en fait.
Alors qu'est-ce qui, j'ai raconté le tout début de l'histoire de Psyché, qu'est-ce qui se passe ensuite?
Oh mais ça n'en finit plus, parce que lorsque Eros et Psyché se reconnaissent mutuellement, Eros s'enfuit, fuit à toute vitesse, et il laisse sa psyché toute seule dans son palais, elle cherche partout son amant, elle ne le trouve pas, elle va chercher auprès de Vénus consolation, qui l'accueille fort mal et qui lui impose un certain nombre d'épreuves quasi insurmontables.
Parce qu'elles sont piégées d'ailleurs.
Parce qu'elles sont piégées absolument, des histoires de fourmis qui sont mélangées à des graines, de rapporter la laine des moutons mangeurs d'hommes, espèce d'épreuves initiatiques impossibles. Et puis finalement, et là, c'est là on retrouve un fond de mythe indo-européen très important, Vénus ordonne à Psyché de descendre aux enfers, d'aller pour accomplir la dernière épreuve, en quelque sorte, c'est d'affronter les enfers en donnant à Cerbère, au dieu à trois têtes qui garde les enfers, en lui donnant un gâteau rempli de somnifères et en ayant dans sa poche les deux oboles pour passer le Styx à l'aller, ce que fait tout le monde, et au retour, ce que ne fait personne, ou peut-être seulement Eurydice. Mais évidemment, tout cela finit plus ou moins mal, puisque le longuant qu'avait préparé Vénus pour Psyché se répand, laisse une fumée mortelle, et en principe, Psyché en meurt, jusqu'à ce qu'évidemment, Eros revienne et par un baiser la réveille. Donc c'est un très long récit compile plusieurs sources mythologiques à travers un fil lui-même très complexe.
Alors justement, ça c'est une chose intéressante et relativement mystérieuse, je crois, est-ce que c'est un personnage Psyché inventé par Apulée entièrement, de la même façon que Ovide, sur qui vous publiez un livre ces jours-ci, on l'oublie toujours, inventé Narcisse. Narcisse n'est pas un mythe, il a inventé Narcisse, qui a été mythifié par la suite. Est-ce que c'est le même processus?
En tous les cas, quand même, on ne peut pas dire que Psyché naisse avec Apulée. Il y a toute une tradition antique, notamment iconographique, autour du nom de Psyché et de son interprétation. Mais précisément parce que cet être mythologique n'a pas de forme à cheveux, c'est un défi pour les peintres et les poètes. Comment représenter psyché, comment représenter le souffle, anima, spiritus, comment représenter une sorte de zéphyr, comment représenter autrement que par ce papillon dont on aperçoit à peine les ailes tellement elles sont translucides. Donc il y a déjà une psyché. Mais ce que fait Apuley, et à mon avis il est le premier, enfin je connais un tout petit peu la mythologie antique mais je peux me tromper, mais je crois qu'il est le premier quand même, puisqu'en tous les cas le grand compilateur de la des métamorphoses Ovide, il n'en parle pas, de psyché. Donc ce que fait Apuley, c'est transformer le mythe en fable au fond, voilà.
Alors, la chose intéressante dans ce que vous dites, Xavier Darcos, c'est qu'il y avait donc cette idée de souffle, d'âme plus ou moins vague, et que Apuley en fait ce personnage. Alors, je vais, je crois, faire un paradoxe exprès pour vous faire répondre, parce que je ne pense pas que ma question soit exacte, mais est-ce qu'il n'y a pas une part d'ironie de la part d'Apuley, justement, de créer, de donner pour apparence physique à cette âme, à ce souffle, à cette chose précieuse et presque mystique, le corps d'une jeune fille nubile, un peu naïve et un peu sotte, et qui n'a que pour seul plaisir qu'on lui fasse l'amour?
Elle est simplex et curiosa, il dit. Elle est simplette et elle est tout à fait curieuse. Elle est curieuse de savoir. Mais écoutez, le mot ironie est juste. Je crois qu'il y a dans l'Andor une part très ironique du traitement familier et décousu et je dirais trop imaginatif au fond des grands mythes qui étaient déjà connus au moment où Apuley écrit. Il y a un jeu avec la mythologie, comme on le trouvera chez les poètes alexandrins par exemple, ou que sais-je. Mais cette ironie qui est réelle, qui est l'Andor en soi, c'est presque un oxymore derrière ce titre, n'est-ce pas? C'est déjà un titre ironique en soi. Cette ironie est aussi une volonté herméneutique, c'est-à-dire la volonté de faire en sorte que quelque chose qui était jusque-là une abstraction, une réflexion théorique, était de l'ordre du philosophique et du mythe, je le répète, puisse advenir dans l'ordre du récit interprétatif. Il y a quelque chose à dire quand même sur Psyché.
Bien sûr.
À savoir que il faut voir l'amour pour se connaître soi-même. Tant que Psyché n'a pas vu qui est Eros, qui n'a pas vu qui est cette chose qui lui fait l'amour, lorsqu'elle ne l'a pas regardé, sa vie n'a pas commencé, en quelque sorte. Donc c'est l'amour comme révélateur. Là, je ne suis pas certain qu'on puisse parler d'ironie. On essaie de trouver, à travers des récits fabuleux, une clé du mystère de la vie.
Alors ce qui est intéressant aussi dans le récit de Psyché, et d'ailleurs dans toutes les métamorphoses d'Apuley, c'est le rapport, comme souvent dans les littératures antiques, ou en tout cas chez certains, le rapport très familier avec les dieux. Le personnage de Vénus dans l'histoire est formidable. Mmh. C'est un personnage, elle est hautaine, elle est coléreuse, elle fait des scènes, enfin. Et tout ça, c'est un peu, ça rappelle un peu la façon dont Homère lui-même traite ses dieux, d'ailleurs. Alors évidemment, on peut dire que d'autre part, il y a Eschyle et son dieu sévère et presque unique. Mais est-ce
non,
que
mais
ça
c'est
n'est pas si
différent? C'est la tradition homérique, celle que l'on retrouve d'ailleurs chez Ovide. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux écoles, au fond. Il y a ceux qui prennent les dieux comme des espèces de modèles terrifiants devant lesquels il faut se prosterner. Et dans une certaine mesure, pendant l'Empire d'Auguste, on a voulu faire revenir le dieu sérieux. Le culte d'Apollon, le culte de Mars, le culte de Vénus, le culte des... Enfin, tout ce qui installait l'apollinisme dans l'ordre politique pour Auguste et qui l'aidait à sa volonté de restauration morale et idéologique. Donc ça, c'est le côté, les dieux, il faut les prendre au sérieux, les adorer dans leur temple. Et puis il y a l'autre tendance qui dit, bah, attendez, les dieux, c'est quoi? Ce Zeus est un violeur, un jouisseur, Héra est une jalouse hystérique, Vénus, nous venons de le dire, est un personnage complètement odieux. Et au fond, ce sont les dieux se conduisent d'une manière injuste, très violente. Le personnage d'Io, par exemple, celle que tout le monde connaît à cause des mots croisés, qui est transformée en vache. Pourquoi est-ce qu'on martyrise cette pauvre fille sous prétexte que Héra est jalouse du fait que Zeus l'ait trouvée à son goût alors qu'elle ne demandait rien à la pauvre fille? Elle est transformée en vache, elle est persécutée, on lui court après, on lui met un ton qui lui pique les fesses tout le temps. Quand elle rencontre son père, elle est déjà transformée en semi-bovin. Elle ne peut que faire des bruits immondes alors qu'il cherche à l'embrasser. Enfin, au fond, les dieux sont atrocement injustes et ils sont atrocement humain. Voilà. Et donc, il y a ces deux tendances. Et on pourrait dire que Apulée, mais ça, ce n'est pas surprenant, parce que nous sommes à la fin du deuxième siècle quand même, Apulée est plutôt du côté de la deuxième tendance, il est plutôt de la tradition ovidienne. Bon, les dieux, c'est une forme exagérée de l'humain.
Dans votre dictionnaire amoureux de la romantique, vous relevez ceci, je vous cite, « Ce qui frappe surtout chez Apulée, c'est l'humour et l'absence totale d'angoisse. » Et justement, le moment où ça a été écrit, où ça a paru, est intéressant vers 150 ou 160. Qui gouvernait Rome? Qui, dans quel état politique et moral était l'Empire?
C'est l'âge d'or des Antonins. Hein. Donc, on considère que ça a été l'âge le plus agréable de cette période. C'est le moment où Tacite vient de publier. Hein, et alors, on est tout à fait retourné contre les dynasties précédentes, en particulier vis-à-vis des Julio-Claudiens. C'est l'époque où Suétone va écrire aussi, enfin un peu avant, mais pratiquement dans la même période, à 30 ans près, où on décrit les premiers empereurs comme des satrapes, des voyous, des tarés, des, ou des fous, ce qui n'est pas complètement faux. Tibère, Caligula, Claude, Néron, enfin c'est quand même des gens difficiles.
Et on se plaint de Trump.
Oui, et on se plaint de Trump. Oui, Trump à côté, c'est de la bibine. Et donc... c'est une époque de grand luxe, de bonheur, je crois, d'équilibre en tout cas, et où les princes eux-mêmes sont déjà plus sceptiques. Adrien, tel qu'il est présenté par Marguerite Yourcenar, me paraît juste. Ils sont moins. Il n'y a plus rien à construire. Il y a tout à sauvegarder quand même. C'est autre chose. C'est pas l'empire est là. Et donc. Comme vous le rappeliez, je crois que c'est un moment d'un certain bonheur de vie, une certaine détente. Et de ce point de vue-là, la comparaison que vous souhaitez faire, je crois, avec ce qui s'est passé au XVIe siècle, sous le règne de François Ier, me paraît juste. On est dans un même climat de relatif apaisement politique qui permet à un certain bonheur de vivre, de s'exprimer.
Et d'ailleurs, ce qui n'est pas tout à fait négligeable, on connaît assez bien la biographie d'Apulée pour telle et telle raison, et lui-même était un fils de famille assez riche, qui a fait des voyages parce qu'il avait hérité, donc peut-être que ça conditionne aussi, c'est pas un auteur populaire du tout.
Pas du tout, mais il avait fait le tour, comme diraient les Anglais. Il était pratiquement tous les écrivains que nous connaissons de l'Antiquité, venait de milieux favorisés et avait voyagé. Donc ce n'est pas une exception chez Apulée. Mais par contre, ce que nous voyons bien, c'est sa connaissance assez riche quand même du fond mythologique gréco-romain, plutôt grec que romain d'ailleurs, qu'il connaît bien et que visiblement il a dû fréquenter d'une manière ou d'une autre au cours de ses voyages ou de ses déplacements, et même un peu égyptien d'ailleurs. On voit en effet quelqu'un qui n'a pas d'angoisse, oui, c'est ce que je dis en tout cas. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai quand je le lis, et qui a eu le temps de s'amuser à se faire une culture générale forte pour pouvoir transformer le mythe en fable, comme je l'ai déjà dit une fois ou deux.
Nous allons maintenant entendre un extrait du premier opéra composé en Angleterre, et c'est un Psyché. Il a été écrit à la demande du roi Charles II, qui voulait faire concurrence à Louis XIV pour les prestiges, et d'ailleurs, d'après le livret de Molière, Corneille et Quino pour le Psyché de Lully, il date de 1675. Son auteur est Matthew Locke, et l'air Venus Descending est interprété par Rachel Redmond. Dans l'opéra, c'est à noter, le rôle de Psyché est uniquement parlé.
Oh,
Xavier Darcos, je voudrais vous poser une question sur la langue utilisée dans l'histoire d'Apulée dont nous parlons depuis tout à l'heure dans ce personnage en personne, sur Psyché. C'est écrit en latin. Pourquoi est-ce que Apulée, qui a grandi en Afrique et dont la langue devait être le grec, a choisi le latin ?
Je ne sais, je pense que c'était une façon quand même d'être lu.
Mais le grec n'était pas la langue internationale ?
C'était une langue internationale, mais visiblement, nous avons dit plusieurs fois que ce que souhaitait Apulée, c'est faire une sorte de premier grand roman populaire. Le terme est possible, enfin il est un peu anachronique, ne croyons pas qu'il faille le prendre en premier degré. Enfin, c'est un vulgarisateur dans une certaine mesure. Peut-être que le latin lui convient mieux. Mais c'est une réponse que j'improvise un peu parce qu'en fait je ne sais pas ce qu'il en est. Il est possible aussi que le modèle auquel pense Apulée, c'est-à-dire le modèle ovidien quand même, ça s'appelle les métamorphoses, hein, bon, c'est un mot grec d'ailleurs, métamorphose.
C'est un mot grec,
hein.
Ouais.
Le modèle ovidien, c'est un modèle latin, donc il est possible que ça soit aussi une des influences qui joue dans cette affaire.
Alors après une longue période d'affaissement de la littérature antique, comme nous savons, après la fin de Rome, on a redécouvert les manuscrits antiques à la Renaissance, et je crois que la redécouverte du livre d'Apulée a été assez tardive, en particulier si on compare à Ovide sur lequel vous venez de publier un livre.
Oui, c'est l'extrême fin du XVe siècle, je dirais, hein, 1470 et après, et quand on regarde les premières grandes figurations, par exemple les fresques de Raphaël, où on la représente, nous sommes en 1510, 1520, par là, dans ces eaux-là. Donc c'est assez tardif. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce que retient le plus la littérature, la peinture et la musique et la sculpture de la Renaissance, du mythe de Psyché, c'est que c'est la fin. C'est-à-dire que Eros embrasse Psyché, ramène cette morte, car elle est morte, ne l'oublions pas. Il la ramène à la vie, ce qui est déjà beaucoup. Mais plus encore, il la ramène à l'immortalité, puisque cette mortelle qu'elle était, cette chose mortelle qui était Psyché, va obtenir l'immortalité, va devenir une déesse. Donc ce que va vouloir montrer, et c'est très intéressant pour le néoplatonisme de la Renaissance, qu'on va vouloir montrer, c'est surtout cette idée, au fond, que l'amour rend immortel, au fond. C'est à côté de la tradition tragique que nous avons en Occident, hein, Rougemont, etc. Bon. Il y a cette tradition aussi du baiser d'amour qui rend la vie, Blanche-Neige, enfin ce que vous voudrez, hein, bon, et qui est un élément fondamental, structurant du mythe de l'amour tel qu'il est représenté à partir du XVIe siècle.
Oui, et qui convient d'ailleurs tout à fait, vous l'évoquiez tout à l'heure, à l'esprit de cette époque, de la Renaissance. Et d'ailleurs, je voudrais noter que la première traduction française d'Apulée est par Guillaume Michel en 1517. Il y a eu trois éditions françaises au XVIe siècle. Ça montre une certaine popularité, si je peux employer un mot très exagéré. Et je voudrais vous poser une question qui me paraît intéressante pour ce que ça dit d'Apulée, c'est que en Italie, le livre a été traduit par Boccace, et on sait ce que Boccace veut dire comme esprit. Et en France, bien des années plus tard, sous la Restauration, il a été traduit par Paul-Louis Courier, qui était le pamphlétaire tellement ironique.
Mais je ne le savais pas.
Un traducteur choisit son œuvre.
Bien sûr.
Et que des gens pareils choisissent Apulée, ça veut dire des choses sur Apulée.
Sur Boccace, je le savais, mais sur Paul-Louis Courier, je ne le savais pas, et j'avoue que alors ça confirme évidemment votre thèse, cher Charles Danzig, sur l'ironie, l'humour et le jeu caché qu'il y a dans l'Andor. C'est même une heureuse surprise pour moi de l'apprendre.
Quand j'ai étudié un peu ce sujet de la représentation de Psyché, ce qui m'a intéressé, c'est que ça a continué pendant très très longtemps. Ça s'interrompt à la Restauration et ça reprend à la Troisième République. Et ça aussi, c'est assez raccord parce que la Restauration est un régime pudibond. Donc, pas question de montrer, j'imagine, Eros et Psyché.
Oui, sans doute. Et puis, Psyché, les amours d'Eros et Psyché ou le baiser d'Eros à Psyché était un prétexte à présenter un couple nu, amoureux. Donc c'est un sujet sensuel en soi, bon, par définition. Alors en effet, ça pouvait même convenir à la Restauration, mais ça a assez bien convenu à Boucher ou que sais-je, au milieu du XVIIIe siècle. Donc c'est une sorte d'érotisme par les clercs qui était qui permettait d'avoir là un sujet prétexte.
C'était devenu un sujet important sous l'Ancien Régime, car en 1619, Porcher a monté un ballet de la reine tiré de d'Amour et Psyché, et en 1656, il y a eu un ballet royal de Psyché qui a été dansé par Louis XIV.
Oui.
C'est-à-dire que,
hein,
je crois que Louis XIV dansait plusieurs rôles, le printemps, un esprit follet et Pluton. Il fallait quand même qu'il fasse un dieu.
Oui. En effet, ça a été un sujet à la fois de spectacle et de danse même, qui devenait presque un lieu commun, en fait. Alors, je ne connais pas le détail des ballets, je l'avoue, mais je sais la puissance de ce document. Je rappelle que La Fontaine lui-même a écrit Les Amours de Psyché et de Cupidon, hein, bon, qui a une tragédie ballet de Molière qui s'appelle Psyché, que Corneille, Lully, Quino, enfin, tout le monde a fait de la réécriture, comme on dirait aujourd'hui, du palimpseste sur ce thème du baiser qui ramène à la vie.
Est-ce que ça a donné lieu à des copies, des adaptations? Est-ce qu'on pourrait dire que d'une certaine façon, La Belle et la Bête est un écho de Psyché?
Alors, on le dit parce que dans les folkloristes disent que c'est la première attestation de ce qu'on appelle le mythème, le fils de la sorcière, qui aboutit à diverses formes, dont La Belle et la Bête, qui est apparenté à une de ses variantes, en effet. C'est ce qui est dit en tous les cas par les folkloristes, qui, je ne fais que dire ce qu'ils nous enseignent, je ne suis pas un spécialiste de cela, mais en effet, ce que vous dites est affirmé par des gens dont c'est la spécialité.
Une Psyché, Xavier Darcos, c'est aussi un miroir. C'est devenu un miroir bien des années plus tard. Et j'aimerais bien savoir, si vous le savez, comment on est passé de ce personnage de Psyché à l'idée de miroir.
Je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que le barycentre conceptuel de ce mythe, c'est le fait que Psyché a reçu interdiction de se voir. Et que c'est le jour où elle se voit, elle-même d'une part, et plus tard ensuite quand elle voit son amant, Eros, d'autre part, que par deux étapes, elle accède à la connaissance de soi. Alors, est-ce que c'est de cette évidence-là, de cet élément central, je n'appelle pas le barycentre, c'est ce qui pèse le plus dans l'histoire, là. Est-ce que c'est ça qui conduit à imaginer qu'on ait donné le nom de Psyché à un miroir où on se voit tout entier? Je ne sais pas, mais
il y a aussi, vous l'évoquez dans votre dictionnaire amoureux de la romantique à propos d'Apulée. Apulée a été à un certain moment de sa vie accusé de pratiques magiques. Il s'est défendu dans un livre qui nous est resté, qui s'appelle L'Apologie. Et c'est dans ce livre qu'on trouve une chose singulière. Je ne sais pas du tout si c'est à l'origine de ce miroir, mais on l'accusait de se promener avec des miroirs. Ça faisait partie des accusations de magie.
J'avais oublié ce détail. Je ne sais pas. Apulée était très content qu'on l'accuse de magie. Parce que c'était une manière d'être lu. D'être passé pour un homme à clé, à mage, une espèce de médiateur. Et l'Apologie est un texte très intéressant parce qu'il permet de comprendre précisément quels étaient les dévotios, le rejet que l'on exprimait contre des gens qui pouvaient être des magiciens. Mais je ne sais pas s'il faut le prendre si au sérieux que ça n'était à une certaine époque où on martyrisait des religions à mystère, comme ça a été le cas d'ailleurs sous Auguste pour les pythagoriciens, par exemple.
Xavier Darcos, que vous a appris le personnage de Psyché?
Je crois quand même, nous avons tous dans l'œil, au moins le Canova ou quelque chose comme ça, l'Eros embrassant cette espèce de forme ailée, cette fille superbe. Et nous avons tous dans l'œil l'idée qu'au fond, le baiser d'amour est révélation. Et je crois qu'en effet, l'amour nous révèle. Je trouve que c'est assez juste au fond. Et que qui n'aime pas ne voit pas.
C'était Personnage en personne, le 126e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de la femme au perroquet, inventé par Manet dans La femme au perroquet.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, chargée d'émission Meryl Moneghetti, prise de son Mathieu Tourin, dans un instant Mathias Sénard et la salle des machines.
Le paradis acquis. C'était un grand jeudi. Tous les jours par